Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Ce matin avec Marc Madiot, Cédric Emans, Pascal Duprat et Christophe Cessieux de retour ce week-end en très 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 grande forme. On a un gros programme pour cette dernière heure sur le buzzer tout à l'heure. On va parler de l'équipe Israël Première Tech, vous savez cette équipe qui a provoqué beaucoup de perturbations sur la dernière Vuelta avec les manifestants pro-palestiniens. Elle a été exclue d'une course en Italie. Est-ce que c'est un pas en avant? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce qu'un pas a été franchi? C'est la question que l'on va se poser. Et puis en fin d'émission, je vous rappelle, venez jouer au jeu du sport aujourd'hui. Emportez votre PlayStation 5 et le jeu eSport FC 26. Appelez le 32-16 touche 4. Envoyez sport au 7-32-16 pour participer. Je pense que vous allez être bon tout à l'heure au jeu du sport. Ça commence à prendre. T'as été bon hier pour ta première, Christophe?
J'ai donné la balle de match.
Ah oui.
Je veux faire la victoire à mon équipe.
Je voulais voir si t'allais en être particulièrement fier.
On connaît les équipes déjà.
Ça, je vais le dire tout à l'heure. Tu sais, pour l'instant, là, c'est entre les mains d'un huissier de justice.
Qui on connaît récupérer l'enveloppe. Pas, tu vois.
Ah non, mais c'est du sérieux. Ah,
tu peux prendre les bénis de la crèche, c'est-à-dire du bras à Madiot contre nous, quoi. Ça peut le faire.
Ou les convalescents. Tu peux prendre des convalescents avec toi, ça, tu les tires.
Je l'amène jusqu'au printemps.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, ça va exploser. Allez, tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Notre point de départ aujourd'hui, c'est un champion italien assez nettement dominé en finale de l'US Open il y a quelques jours par Carlos Alcaraz. Yannick Sinner, il y a deux semaines, avait aussitôt promis d'apporter des modifications à son jeu pour étoffer son arsenal. En arrivant à Pékin il y a quelques jours pour les différents tournois en Asie, il a confirmé que son axe de travail avait été de changer les choses justement pour affronter Alcaraz. Je le cite, « Nous avons beaucoup réfléchi à cette finale, nous travaillons sur de nouvelles choses, nous changeons beaucoup de petits détails. » Alcaraz d'ailleurs est ravi de savoir que Sinner va essayer de se métamorphoser pour l'affronter désormais, comme Alcaraz l'a lui-même fait pour s'adapter à un nouveau Sinner. Les GG, à travers votre expérience, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Est-ce que les champions, les sportifs de haut niveau, les champions peuvent se réinventer? 3216 et WhatsApp 06 12 424 424, si vous avez des questions à poser aux GG. On peut se réinventer quand on est champion, Pascal Duprat, tu penses?
Alors moi, je voudrais simplement préciser, ou alors vous poser la question, Sinner, il va revenir sur les cours, il va être gaucher?
C'est ça.
C'est sur l'aspect tactique, en fait.
Il sera mental, donc, peut-être aussi.
Bah, tous les champions, tous les sportifs de haut niveau, aidés en cela par leurs entraîneurs ou leurs conseils. Quand il s'agit par exemple d'un sport collectif, le mien, bah, il est certain que tactiquement, eh bien, on tente de s'adapter dès lors que les matchs précédents, on n'a pas été performant. Donc l'adaptation ou l'adaptabilité, c'est selon. Elle est constante. Si je prends mon cas personnel, j'ai d'abord pas été un grand champion, un très bon joueur honnête de division 1. Malheureusement, j'avais pas un gros moteur. Donc toute ma vie de sportif, je me suis évertué à très bien faire mon métier. Je me suis évertué à tenter quelquefois à perdre du poids, espérant que j'allais durer davantage que l'heure de jeu, parce qu'à l'heure de jeu, j'explosais. Mais malheureusement, ça n'a pas eu de bénéfice sur moi. C'est peut-être parce que j'étais pas un champion. Cela dit, en tant qu'entraîneur, par contre, il m'est arrivé de déplacer un joueur, avec son consentement bien sûr, au prix de discussion, de faire d'un latéral droit, par exemple, Daniel Vass, international danois, quand il vient à l'ETG, il vient de Benfica, il est arrière droit, et il me semble que ce joueur pourrait être meilleur milieu de terrain offensif. Voilà, parce qu'il était doté d'une bonne frappe, parce qu'il avait cette qualité de pied qui lui permettait de marquer des buts, et je me disais...
Tu l'as réinventé.
Je me suis dit bêtement. Je l'ai pas réinventé, je l'ai aidé à jouer un peu plus haut pour bénéficier de son atout premier, à savoir sa qualité de pied.
Mais est-ce que la définition d'un sportif de haut niveau, justement, c'est pas ça, c'est de se réinventer, parce que tu es un sportif de haut niveau à 20 ans, à 25 ans, t'en es un autre, à 30 ans, 35 ans. Pour vous faire part, moi, de mon expérience, j'ai évolué, j'ai pris plus de 12 kilos tout au long de ma carrière. À des moments, il a fallu que j'en perde parce que j'en avais un peu trop. Parce que le rugby devenait de plus en plus plus physique, il a fallu se protéger musculairement, il a fallu passer sous les barres. Et après, avec l'âge, ben, t'anticipes les courses, tu regardes où tu vas pouvoir te mettre pour être plus rentable pour ton équipe. Tu peux changer de poste, hein, passer de trois quarts centre, ailier, arrière. T'es dans l'invention, la réinvention, l'adaptation. Toute ta carrière, c'est ça qui fait.
Il y a aussi ton expérience.
Et l'expérience, j'allais y venir, merci Pascal. Ouais. C'est l'expérience qui fait que ben tu t'anticipes tout, tu programmes mieux tes matchs, tu programmes mieux tes interventions, et c'est non, s'adapter.
C'est pas si facile quand même. C'est un inconfort aussi pour quand on est sportif de haut niveau.
Alors oui et non.
De se dire
oui
pour non, survivre, je dois me réinventer.
Oui,
parce que c'est de la survie en fait.
Mais parce que c'est de la survie. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est la continuité en même temps.
C'est excitant. C'est excitant de se dire, ça serait trop facile de se dire, je suis à 20 ans sportif et je reste le même. Là, c'est excitant de toujours se réinventer, d'aller chercher quelque chose de nouveau, d'aller s'adapter à l'évolution de son sport, aux évolutions des règles, aux évolutions tactiques, aux évolutions de son adversaire.
Parce que le sport de haut niveau est extrêmement concurrentiel. Donc à l'intérieur d'un club, à l'intérieur d'une équipe, vous devez chaque fois montrer le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même. Donc l'obligation pour vous, chaque fois, si c'est la terminologie qui va, de se réinventer, donc d'être toujours au mieux de son niveau, et même de dépasser ses limites.
Puis un sportif de haut niveau, il est évalué tout le temps, à l'entraînement, tous les jours, t'es évalué quand tu es dans le monde professionnel.
Si tu ne te rends pas, tu es mort.
Ben, les tous autres... les jours depuis gamin, c'est ben ça oui, aussi, puis... Cédric.
Oui,
depuis
tu as raison.
Depuis tout petit,
donc tu l'as en toi. En fin de compte, cette question, elle se pose peut-être sur la partie psychologique, sur la partie tactique, mais au fond de toi, tu l'as. T'es sportif de haut niveau, donc tu l'as, Marc.
Non, je pense qu'il faut se renouveler et se nourrir de nouvelles expériences. Tu es sportif et que tu as des qualités dans un domaine, tu peux aussi évoluer et améliorer dans d'autres domaines pour être performant. Il suffit de regarder, si je me réfère au cyclisme, tu as des coureurs qui étaient lanceurs qui sont devenus sprinteurs, des sprinteurs qui étaient plus assez bons comme sprinteurs qui sont devenus lanceurs ou qui sont devenus bodyguards de coureurs leaders. Moi, je vais vous citer un exemple dans mon équipe que j'ai connu, William Bonnet. William Bonnet, il a démarré, il était bon sprinteur, il est devenu lanceur, il a eu des chutes et il a eu des appréhensions, il s'est reconstruit physiquement, il est devenu bodyguard de Thibaut Pinot. Donc vous voyez qu'en une carrière d'une dizaine ou d'une douzaine d'années, c'est un coureur qui a changé d'évolution et de fonctionnement.
La réinvention, Marc, c'est intéressant.
Ça, c'est de la réinvention.
Pascal le disait aussi quand il était avec Daniel Vaz, quand il propose de faire autre chose, il faut aussi peut-être gérer l'ego du coureur ou joueur. Tu dois te réinventer.
Mais
si tu veux survivre, il faut être autre chose.
Il n'y a pas besoin de gérer l'ego,
il faut être autre chose.
Mais instinctivement, il s'est réinventé. Il s'est réinventé, on a évoqué ces situations-là avec lui, mais il s'est réinventé et c'est devenu un cheminement normal dans son vécu de carrière.
Là, on parle de deux entraîneurs qui vont provoquer le sportif pour se réinventer.
Il y a aussi le sportif qui peut se réinventer lui-même.
Exactement.
Il n'y a pas forcément besoin d'une tierce personne pour stimuler ou motiver la situation.
En fait, Marc, que je vais dire que le cyclisme est davantage, même si c'est un sport collectif,
c'est plus individuel.
Mais c'est plus individuel que le foot.
Oui,
au foot, le joueur qui arrive tranquille à l'entraînement puis qui vient voir son coach et dit écoute, je suis arrière droit, je veux jouer ailier gauche à partir de la semaine prochaine. Bon, et il est certain que ça va faire l'objet de quelques débats parce qu'il y a le collectif à prendre en compte.
Évidemment.
Donc quand tu es entraîneur d'une équipe collective ou le fondement du sport est le collectif, notamment donc le football. C'est au prix parce que t'as des égos, t'as des joueurs qui sont confortés dans leur position, qui sont souvent titulaires. Moi, celui-ci était titulaire aussi en équipe du Danemark. Donc de lui proposer de jouer un cran plus haut, c'est la force de persuasion et aussi la pertinence peut-être du technicien qui lui doit avoir une vue globale d'ensemble.
C'est un métier d'entraîneur.
Et oui, et de permettre à ces joueurs, en tout cas, de tirer la quintessence de ces joueurs.
Est-ce que les champions peuvent se réinventer? C'est le sujet du vestiaire des GG aujourd'hui, Christophe.
Tiens, Marc, tu remportes deux fois Paris-Roubaix, la première fois en 85, t'as 26 ans, et il faut que tu attendes 6 années supplémentaires pour le gagner. T'es plus le même homme. T'as 32 balais, je crois.
J'ai plus d'expérience.
Alors, qu'est-ce que tu as changé entre les deux? Et est-ce que tu as réussi à te réinventer quelque part?
Pas grand-chose.
Parce qu'à 32 ans, t'es pas le même coureur qu'à 26.
J'étais pas le même coureur qu'à 26, mais j'étais surtout un coureur différent de ce que j'étais à 20 ans. Donc, en fait...
Le changement, il s'est plus fait entre 20 et 25 heures.
Tu lisais mieux la course?
Non, en fait, quand j'ai démarré, j'étais plutôt un coureur assez complet et polyvalent. Donc, je pouvais m'exprimer sur des courses par étapes, en montagne, notamment. J'ai quand même fait 8e d'un Tour de France, donc je passais plutôt pas mal la montagne. Mais, quelque part, mentalement, j'étais plus à mon aise sur les courses d'une journée. J'étais beaucoup plus punchy physiquement et mentalement sur une course d'une journée.
Guimard, au départ, il avait décidé de faire de toi d'un coureur de grand tour.
Il n'avait rien décidé du tout. Il avait essayé de faire de moi le coureur le plus utilisable possible en compétition à travers un groupe. Et on fait la même chose avec tous les coureurs. Après, naturellement et spontanément, mon évolution personnelle a été vers les courses d'un jour parce que j'y trouvais plus d'intérêt personnel, plus de stimulation, plus d'envie. C'est aussi simple et aussi bête que ça.
Parce que tu étais plus compétitif dans ce domaine-là, Marc.
Sans doute, mais j'y prenais. Sur les courses classiques ou les championnats, je prenais plus de plaisir que sur un grand tour.
Donc, la question, c'est
limpidement et naturellement.
Comme Pogacar, justement, Pogacar va
mais on voit bien
évoluer. Il est en train d'évoluer petit à petit.
Pogacar a une attirance pour les courses d'une journée. On sent bien que c'est un coureur punchy et qui cherche de l'adrénaline. Et l'adrénaline, on l'a plus sur les courses d'une journée que sur les courses de 3 semaines.
Moi, j'ai une question réinventée par le plaisir.
3 semaines, on est dans la régularité et dans la gestion. Sur 3 semaines, on est dans la gestion. Et je pense que Pogacar, c'est... Oui, il fait de la gestion, mais il a surtout envie de faire autre chose.
Moi, j'ai une question. Vous qui êtes entraîneur, il y a ce que le coureur, le joueur pense être... Est-ce qu'il est réellement à travers ses résultats? Tu disais que tu étais un coureur polyvalent et que tu avais plus d'appétence pour partir au fil de ton expérience. Tu as compris que tu avais plus d'appétence pour partir sur les courses d'un jour. Moi, la question que je me pose, c'est que un joueur qui se croit ou qui pense être complet, mais en fin de compte, vaut mieux le mettre à droite ou à gauche sur une équipe de foot ou lui faire que les courses d'un jour parce que il a cette fibre-là. Quel est le rapport de l'entraîneur sur le joueur? Je sais pas si ma question elle est claire, mais...
Le rapport de l'entraîneur, que tu sois entraîneur en foot ou en vélo, t'as un contact et t'as une relation avec le coureur qui fait que il y a forcément des échanges dans ce sens. Un coureur comme, je vous évoquais tout à l'heure, un coureur comme William Bonnet dans mon équipe, ça s'est fait progressivement et naturellement.
Est-ce que lui, il était persuadé vers où t'allais l'amener? Parce que s'il n'est pas convaincu...
Il est venu tout seul, quelque part. Quand il était sprinter, il prenait des risques. Quand il est devenu lanceur, il prenait encore des risques. Il a eu des chutes, notamment sur le Tour de France, qui ont fait que physiquement, il est rentré dans une autre phase. Il avait changé d'époque, il avait vieilli aussi. Sa situation personnelle était différente. Il avait une femme, des enfants, et dans l'appréhension de la prise de risque, il était dans une autre approche. Et il avait par contre ses qualités qui lui permettaient de frotter, d'avoir le sens du placement, le sens de l'anticipation, ce qui pouvait apporter beaucoup à un coureur comme Thibaut Pinot. Et ça s'est fait, j'ai envie de dire, de manière simple et limpide.
Pascal, sur le sujet.
En fait, j'ai presque envie de dire que si je me réfère à mon époque quand j'étais joueur, déjà d'une part, la préparation individualisée, elle n'existait pas. Vouloir contester l'autorité du coach, c'était pas trop dans l'air du temps. Donc on suivait, on va dire benoîtement ou béatement ce que le coach nous disait de faire. Aujourd'hui, les joueurs...
Tu disais jamais d'eux que c'est des merdes humaines quand même, c'était pas le genre.
Non. Aujourd'hui, le joueur de football a une haute estime de lui, certainement autant que nous en avions à l'époque, et c'est normal. Mais par contre, il faut étayer ce qu'on veut du joueur. Là où on veut l'amener, aujourd'hui, il a besoin d'explications malgré tout. Donc il est plus à la recherche du bien fondé de ce que tu veux lui proposer. Il faut instaurer une confiance.
Oui, mais on a vu des joueurs, je parle de rugby, qui disent « Moi, je jouais uniquement arrière parce qu'elle est... Je m'embête, je veux pas jouer 2000 ouvertures.
Regarde, un Dupont, il se réinvente tous les jours.
Oui, mais lui,
il se donne des nouveaux challenges.
Oui, mais moi, je parle du joueur qui veut pas. Je parle que de l'avant-centre qui veut à tout prix jouer au milieu et on lui dit non, tu vas te décaler sur la gauche parce que pour les bienfaits de l'équipe, pour le collectif, tu as une qualité de centre qui est supérieure. Faire passer ça dans la tête d'un sportif, C'est ça, tu vois.
C'est pas
la différence justement entre le sportif de haut niveau et le champion. Le champion, c'est celui qui a cette capacité-là, justement, à se remettre en cause.
C'est l'acceptation. C'est l'acceptation parce que quand tu évolues physiquement. Tu sais que tu vas devoir t'adapter entre 20 et 30 ans, tu vas être obligé de t'adapter parce que tu vas moins vite, parce que tu as plus de poids, l'expérience fait que tu te réinventes. Ça, je suis d'accord. Mais se réinventer psychologiquement et mentalement pour de dire « je suis prêt à faire une petite croix sur ce que je veux être pour le service du collectif ».
Et là, c'est l'ego, du coup, aussi. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est se rendre compte à un moment donné « je ne suis plus capable ». Donc il faut que je me réinvente ça. Vous avez tous forcément été confrontés à ça.
Il faudrait peut-être faire la distinction entre le sport collectif et le sport individuel. Si tu prends Tiger Woods, Tiger Woods il a changé 4 fois de swing dans sa carrière.
Il s'est adapté
à
ses blessures aussi.
Okay, mais parce qu'il était blessé.
Ouais.
Donc et il s'est adapté parce que c'est que lui en fait. La performance c'est lui qui l'obtient. Le collectif t'as besoin des autres généralement.
Ouais,
même le grand champion a besoin des autres.
Le champion dans le collectif s'adapte au collectif et se réinvente. Dans un sport individuel, il est seul face à sa petite balle blanche, sa balle de tennis ou sur son vélo. C'est pas la même chose.
Il est seul sur son vélo, mais il est quand même dans une équipe.
Alors le vélo, c'est encore.
Pour un coureur cycliste, il y a une chose qui est très importante. Si tu ne sers plus à rien, tu es en danger.
Donc,
quand tu es coureur, tu es obligé de t'adapter aux situations. Tu es obligé. Par exemple, quand t'es jeune coureur, tu deviens professionnel, tu arrives avec de l'ambition, avec des rêves et des qualités, sinon tu serais pas là. Et chemin faisant, tu te rends compte que tu n'es peut-être pas un super rouleur, tu n'es peut-être pas un super sprinter, tu n'es peut-être pas un super grimpeur. Qu'est-ce qui te reste ? À devenir un bon équipier.
Un bon descendeur.
Un bon équipier qui apporte sa pierre à l'édifice et qui apporte au collectif dans la gestion de la course.
Quand tu vois souvent débarquer les jeunes coureurs, ils sont champions ils ont toujours été champions dans leur jeunesse.
Champions de quelque chose.
Des champions de leur région, champions de leur catégorie d'âge. Et de leur faire admettre qu'ils sont bons, ils sont très bons chez les jeunes, mais là, t'es au niveau le plus élevé et en fait, là, t'es pas au niveau pour être un leader.
Ils s'en rendent compte
tout seul.
La dureté du sport te fait prendre conscience. La difficulté de la course te fait comprendre qui tu es et à quel niveau tu vas jouer. Si tu es jeune, tu arrives plein d'ambition, tu arrives sur la première course de la saison, il y a une arrivée en sommet ou en bosse, tu crois que tu peux passer la bosse. Et puis tu la passes pas, tu la passes pas une fois, tu la passes pas deux fois, tu la passes pas trois fois. Donc il y a un moment où tu te rends bien compte que tu passes plus la bosse, ou que t'es pas fait pour passer la bosse, que t'es peut-être fait pour préparer le terrain pour celui qui va la passer. Mmh. Donc finalement les choses se font
naturellement
et la hiérarchie s'installe. Tu sais vite qui tu es. Ou si tu le sais pas, c'est que t'as pas grand chose à faire dans ce métier.
Oui, mais parfois l'entraîneur est important. Et on a tous en tête les images de Luis Enrique, par exemple, avec Mbappé, qui lui dit si tu veux devenir un grand joueur comme Michael Jordan,
c'est là où il faut
le défendre. Il a réussi à le faire avec Dembélé.
Il y a se réinventer et s'adapter. C'est deux choses différentes pour moi. Parce que s'adapter, c'est, on peut le dire, vélo, sport collectif, c'est s'adapter à son environnement. Se réinventer, pour moi, c'est quelque chose de bien plus profond. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être dû à une blessure.
Oui.
La notion, elle est pas pareille. C'est de la dimension, voire spirituelle, c'est personnel de se réinventer pour aller chercher quelque chose au plus profond de soi-même.
C'est pour ça que c'est une question intime qu'on voulait vous poser aujourd'hui.
Non, on se dévoile. Hein.
Non, mais c'est vrai, c'est très intime, finalement.
Mais oui. Mais moi, je rêvais de jouer arrière. On m'a vite fait comprendre que j'étais complètement dingue sur un terrain, que je mettais l'équipe en danger. Donc, on m'a dit, tu joueras un peu au centre et à l'aile. Parce que tu peux pénaliser l'équipe. Et après, avec l'âge, avec un peu plus d'expérience.
Tu l'as accepté?
Non, je ne l'ai pas accepté. Mais pour le service du collectif, je l'ai fait. J'ai continué à bosser à l'arrière. J'ai continué à regarder ce poste qui.
Et t'as joué à un certain moment, derrière.
Pourquoi? Parce que l'expérience fait que je suis peut-être.
T'étais moins en danger pour ton équipe.
Voilà, et puis j'ai mis mon ego de côté en disant tu rends plus service à l'arrière. Et après, là, c'est de l'adaptation. Il y avait deux gros ailiers. Mieux peut-être essayer de rentrer dans l'équipe en jouant à l'arrière que Calen.
Moi, j'ai su me réinventer. J'ai quitté la bouée canard pour me mettre au kitesurf avec une réussite totale. Donc, je vais me remettre à la bouée canard l'année prochaine.
Fais gaffe. Faut pas se réinventer trop vite. Le danger, ça peut être d'essayer de se réinventer trop vite, tu sais.
C'est ça la différence entre les sportifs de haut niveau et de très, très bas niveau, quoi.
Pascal, un mot de la fin, peut-être, sur ce vestiaire. Comment se réinventer quand on est champion? On a un peu dévoilé, là. On a un peu dévié, évidemment, sur le sport en général. Mais c'est vrai que tous les sportifs de haut niveau, d'une certaine façon, sont des champions. T'as bien fait de le rappeler, Christophe. Les jeunes, à un moment donné, quand ils sont gamins, terrain. Ils ont tous été champions nationaux, ils ont tous été champions régionaux. Donc, quand on est sportif, on est un champion quand on est sportif de haut niveau.
On pourrait, par exemple, réfléchir sur le joueur numéro un français de football, Kylian Mbappé. Le jour,
le jour où il
perd sa vitesse.
Eh oui.
Voilà, il faudra peut-être qu'il se réinvente. OK, le jour où il ira moins vite, beaucoup moins vite parce qu'il va très vite, OK? Il va falloir qu'il se réinvente et se réinventer le jour où il aura plus la vitesse.
Est-ce que Mbappé
est suffisamment subtil footballeur pour se réinventer? Alors c'est un grand joueur certes, mais la question reste entière.
Messi avait réussi à le faire parce qu'au début il était hyper explosif, il courait quand même.
Ouais, mais Messi il avait une qualité, techniquement il était au-dessus du lot. Tandis que Mbappé sa qualité première, c'est sa vitesse. Le jour où il perd sa vitesse, il va falloir qu'il la perde, attention, c'est pas dit qu'il la perde. Si un jour il venait à la perdre.
Tu vas toujours aussi vite.
Tu vas toujours aussi vite.
Ça dépend, pour aller
réinventer.
Non. J'ai un petit message pour Pascal Duprat d'Alain Roche. Réinvente-toi au niveau golfique parce qu'il t'attend apparemment. Voilà.
Non, mais là, ça risque pas. J'ai envoyé paître mes clubs, c'est fini, je veux plus jouer au golf. D'abord, j'ai pas les moyens. J'ai plus les moyens de jouer au golf. Et puis j'en resterai là. J'adore ce sport. Je trouve que la Ryder Cup est magnifique.
Depuis deux jours, vous en profitez à chaque fois. Dès qu'il est possible de parler de la Ryder Cup, vous le remplacez.
Ouais, c'est un événement sportif.
C'est tellement bien filmé. T'as l'impression d'y être tellement c'est bien filmé.
À la radio, on filme pas. Donc on va essayer de vous faire.
Non, mais moi, je coupe le son et je mets la radio.
Allez, on referme la porte du vestiaire. Est-ce que les champions peuvent se réinventer? Donc j'ai noté tout ça. Se réinventer par plaisir, par survie, par besoin. Encore faut-il en être capable. Voilà, donc c'est toujours passionnant de vous entendre.
Ça va pas très fort pour l'équipe de France championnat du monde. Je sais pas si Maria...
C'est le top course. Qu'est-ce qui se passe?
Deuxième abandon en équipe de France. Louis Barret vient d'abandonner. Je me demande s'ils n'ont pas mangé un truc, bu.
Après, les championnats du monde, Marc, on sait que c'est aussi une course à élimination. Il a un peu tôt, mais c'est vrai que plus que dans une course normale, quand on est lâché au bout d'un moment, on laisse tomber.
Il faut tous les bons éléments au bon endroit, le bon jour à la bonne heure.
Ouais, moins en moment, effectivement, et dans le final, ça fait
ça. Ça veut rien dire, ça n'empêche pas qu'on peut aller chercher un résultat quand même. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon au bon moment, au bon endroit.
S'ils n'ont pas tous bu le même truc, ça va aller. C'est pas fini.
On espère que Jérôme Coppel et Maria Azé sont peu en forme. On va les retrouver dans quelques instants et tout au long de la journée.
Ils boivent pas beaucoup d'eau.
Pour ce maillot arc-en-ciel.
Tranquille de ce côté-là.
Je sais que le premier soir de Jérôme Coppel à Kigali, j'en dirai pas plus. Allez, on revient dans quelques instants. Les GG sur le buzzer. Sujet très sérieux là en plus. Avec l'équipe Israël, première tech qui a été exclue d'une course en Italie. Est-ce qu'un pas a été franchi après tout ce qui s'était passé déjà sur la Vuelta? A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marc Madio, Pascal Duprat, Cédric Emans et Christophe Cessieux dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? On commence à avoir une petite idée, hein, attention. On n'a pas dévoilé le classement, mais il y a déjà quelques GG qui sont peut-être plus au point que d'autres.
Ah ouais? Il y en a d'autres qui sont vraiment au fond du trou?
Vas-y, je sais pas, mais ça peut avoir une vraie influence sur qui sera là au printemps.
Au revoir.
Je vous dis au revoir tout de suite. Julien Beneteau râle beaucoup. Pas forcément très performant. En plus, on remet en cause l'arbitrage. Les jeux du sport tout à l'heure, évidemment, juste après notre prochain débat. Mais d'abord, j'accueille le vainqueur de notre jeu du jour. Vainqueur de deux places pour OM Ajax, ce mardi à 21h au Vélodrome. Salut Mathis.
Allô
Mathis, félicitations, tu as gagné deux places pour OM Ajax.
C'est incroyable, merci beaucoup.
C'est fou, non? Bon, tu sais déjà avec qui tu vas y aller ou...
Non, je ne sais pas encore. Ouais. Je suis allé déjà voir le Classico le week-end dernier. Alors là, c'est vraiment incroyable.
Ah oui, c'est un régalade. Non, mais bon, t'as pas quand même une petite préférence là déjà? Tu te dis pas, je vais aller avec lui plutôt qu'un autre?
Moi, je sais pas. Je
tu
sais
peux
pas
lancer
encore,
ton appel.
Là, je vais aller avec des vrais frères.
Ah, ben voilà, les fratés, les frères, effectivement. Voilà. Allez, merci Mathis, on espère que tu vas te régaler. On est heureux de t'avoir fait gagner ces places pour OM Ajax, mardi 21h au Vélodrome, deuxième match de Ligue des Champions. L'OM en plus, qui est en grande forme. Match évidemment à suivre sur RMC comme toutes les rencontres de Ligue des Champions. Mais d'abord, les amis, un dernier débat sur le buzzer. Une exclusion d'équipe dans un peloton en Italie ne risque-t-il pas de créer un dangereux précédent?
RMC, les GG sur le buzzer.
Vous vous souvenez tous de l'équipe cycliste Israël Première Tech. Des manifestants pro-palestiniens se sont insurgés de la présence de cette équipe sur la dernière Vuelta, allant jusqu'à perturber la course à plusieurs reprises, au point de littéralement empêcher l'arrivée finale à Madrid. Marc, tu étais sur cette Vuelta, on en avait déjà parlé. Les organisateurs soutenus par la Fédération Internationale du Cyclisme n'avaient pas voulu exclure cette équipe pour ne pas créer de précédent. Hier, on apprend que les organisateurs d'une course en Italie, le Tour d'Émilie, qui est une course de deuxième niveau, on va dire, dans le calendrier international, que Pogacar avait gagné l'année dernière, programmée le 4 octobre, eh bien, l'organisation a décidé d'exclure l'équipe Israël Première Tech de ses participants. La raison invoquée, la sécurité publique, je les cite, le climat est très lourd, il y avait trop de dangers pour les coureurs comme pour les autres équipes. Avec notre circuit final à parcourir 5 fois, les possibilités que la course soit perturbée sont très nombreuses, a expliqué l'organisation à l'AFP. La question que je vous pose, les GG, Israël Première Tech exclu, est-ce qu'un pas a été franchi? D'abord, je vous entends, oui ou non d'ailleurs, Marc?
Oui.
Christophe?
Oui.
Cédric? Pascal?
Oui.
Unanimité, un pas a été franchi. On en avait déjà parlé, Marc, donc quand tu étais sur la Vuelta, tu étais à Bilbao, tu avais vécu ça aux premières loges. Donc tu dis un pas a été franchi en excluant carrément cette équipe, ce qui n'avait pas été fait sur la Vuelta.
Ce qui n'avait pas été fait sur la Vuelta, et ce qui montre qu'on a une pression qui s'installe, notamment sur les organisateurs qui ont des moyens limités parfois, notamment ceux du Tour d'Émilie, qui n'est pas une des plus grandes courses du calendrier, donc c'est forcément plus délicat et plus coûteux d'organiser, parce que quand on met des forces de police supplémentaires, il y a un moment où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye l'addition. Donc on s'aperçoit que c'est quand même de plus en plus délicat. Je pense qu'il va y avoir un intérêt à regarder précisément ce qui va se passer sur les prochains championnats d'Europe dans une semaine en France. On voit bien que le fait de manifester sur un événement sportif se radicalise. Autrefois, quand on avait des manifestations, quelles qu'en soient les raisons ou quelles qu'en soient les participants, on avait un respect de la situation présente. C'est-à-dire que quand des ouvriers pour une usine qui se fermait ou quand des agriculteurs étaient sur le bord de la route, il y avait une manifestation quelque part entre guillemets bon enfant.
Même si on se souvient que le blaireau, Bernard Hinault, avait punché des grévistes.
Ouais, mais imaginez aujourd'hui, c'est plus inimaginable ce genre de situation. Donc on avait quelque part des règles tacites de fonctionnement entre les manifestants et les coureurs cyclistes et les coureurs cyclistes. Là, sur ce qu'on a vécu sur la Vuelta, on voit bien qu'on est rentré dans une autre dimension, à savoir qu'il y a toujours des manifestants simples, entre guillemets, qui viennent mettre en évidence leur désaccord ou qui viennent apporter leur soutien à une cause. Mais on a aussi l'apparition, me semble-t-il, l'apparition de professionnels du bazar et du bordel, entre guillemets, qu'on peut installer dans la vie publique. Et c'est là où, pour moi, il y a un changement. On n'a plus les manifestants simple et naturel qu'on pouvait avoir le passé. On a une nouvelle population de manifestants qui arrive sur les manifestations sportives. Et là, je pense que ça impose une réflexion de la part des autorités sportives, mais aussi publiques, pour le devenir des manifestations sportives.
D'autant, Marc, ils ont été encouragés parce que
le gouvernement espagnol,
leur mouvement a marché en Espagne. Montrer leur revendication a été montrée aux yeux du monde entier avec les retransmissions à la télé. Ils ont réussi à empêcher l'arrivée de la dernière étape. Autant dire que là, ils sont confortés dans leurs objectifs. Hein. Donc, s'ils veulent créer encore plus de bordel, ils savent comment faire maintenant. C'est-à-dire interrompre les courses. Moi, je suis très inquiet pour les championnats d'Europe qui auront lieu la semaine prochaine, et je trouve que les organisateurs sont un peu laissés à l'abandon par les autorités. Là, on nous annonce 400 policiers supplémentaires à Valence la semaine prochaine, mais c'est une goutte d'eau, là. Comment tu veux sécuriser tout un
Ça va être compliqué. Après, tout dépendra de la nature des manifestants. Si c'est des manifestants pacifiques, ça se passera bien.
Oui,
si c'est des manifestants qui arrivent avec de la virulence, ce sera beaucoup plus compliqué.
Il y en aura des deux sortes.
Hein. Attention, vous êtes tous inquiets.
Oui, et puis inquiets par rapport aux coureurs. Parce que là, ils sont exclus par rapport
aux sponsors. Parce que là, on parle du vélo, surtout, qui est au contact direct.
Non, mais on peut parler d'autres pays, d'autres sponsors. Quand tu es aux États-Unis, en Chine, peu importe, en Russie, si le sponsor est ennemi du pays qui accueille la compétition, tu vas exclure. Les équipes.
Il y a des États qui soutiennent des équipes cyclistes, effectivement. Hein, voilà, avec Bahreïn, les Émirats. Sur
le championnat d'Europe, c'est l'équipe israélienne.
C'est l'équipe israélienne pour les championnats d'Europe. Il y aura un gros dispositif de sécurité, notamment sur la course. Pascal, toi aussi, t'es inquiet par ce qui se passe, par la tournure que ça prend, en fait.
Inquiet, bon, c'est difficile de parler de ce sujet, faut tâtonner.
Mais ouais, je précise que le débat, c'est pas le sens de la cause. Hein, c'est juste,
inquiet et triste.
Triste.
Je suis inquiet, je suis triste. Parce qu'encore une fois, on prend le sport en otage, quoi qu'on en dise. OK, de grands événements sportifs, et bon, on en profite parce qu'il est mis en lumière pour installer une bordélisation.
Ouais, mais alors d'un autre côté, Pascal, d'un autre côté, les États utilisent aussi le sport à des fins politiques. Ouais. Quand tu vois qu'un État sponsorise une équipe cycliste, c'est pour faire la promotion de ce pays.
Exactement,
aussi.
C'est un retour de bâton du soft power, comme on dit.
Ouais, puis regardez dans le rugby en Afrique du Sud, boycott de l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. On leur donne une Coupe du Monde, ça relève un pays. Du moins, c'est de la politique peut rentrer dans le sport. Le sport peut aider la politique et vice versa. Donc dès qu'on sera hyper politisé dans le sport, forcément il y aura des perdants. Et moi je regarde surtout le côté des sportifs.
Mais c'est parce que c'est en fait le problème, c'est que la sécurité des athlètes est mise en danger.
Oui, non mais il y a pas de parade.
Mais justement, j'aimerais qu'on écoute David Lapart, le président de l'Union cycliste internationale, qu'on a rencontré cette semaine à Kigali au championnat du monde. C'est Maria Azé qui lui a tendu le micro. Il parle aussi de ce qui arrive l'année prochaine. Il y a le Tour de France qui part de Barcelone. Je rappelle que le gouvernement espagnol a soutenu ce qu'il s'est passé à l'arrivée de la Vuelta, c'est-à-dire des manifestations qui ont empêché l'arrivée finale. Est-ce que le départ du Tour en Espagne qui laisse tout ceci arriver est un sujet aujourd'hui dans le monde du cyclisme. David Lapartien.
Il y a un sujet à traiter, ça c'est clair. Et donc ici, il y a le directeur général du groupe Amaury, avec qui j'en ai parlé. Sylvain Adams, le propriétaire de l'équipe Israël Premier Tech, est aussi là et je vais profiter aussi de le rencontrer pour discuter de la situation. Il faut naturellement que collectivement, nous discutions de ce qui a pu se passer à la Vuelta, quelles sont les décisions qui doivent être ou qui peuvent être potentiellement prises. Ça fera partie des discussions qui vont nous animer dans les semaines à venir, en vue en fait de la prochaine saison.
Des discussions dans les semaines à venir, c'est un sujet, dit David Lapartien, qui va en parler avec tout le monde. Donc le groupe Amaury, évidemment, c'est le propriétaire du Tour de France et de beaucoup de courses cyclistes en France. C'est un sujet, le départ du Tour en Espagne, Marc, pour toi ?
Ah, pour moi... Pas encore, parce qu'on est loin du départ, mais je pense que pour les instances dirigeantes et les organisateurs, c'est un vrai sujet.
Mais est-ce que vous en parlez dans Radio Peloton, en fait, quand je dis ça, c'est entre les coureurs, les managers, c'est un sujet chez vous ?
Pendant la Vuelta, on en a parlé. Après, là, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer de manière physique sur les dernières épreuves qui ont pu avoir lieu, mais on va forcément en avoir...
Vous avez pris une position commune sur la présence ou non d'Israël Premier Tech.
Il
n'y
a pas eu de consultation au niveau de l'association des équipes. On n'a pas forcément eu de communication directe avec les instances.
Ouais.
En fait, c'est l'organisateur et les instances qui décident ou non du cheminement de la course. Donc,
Mais qu'est-ce que vous attendez des instances, en fait ? Parce que le truc, c'est que en Espagne, il faut rappeler, Marc, ce sont les autorités publiques qui font la sécurité sur les courses.
Tout à fait.
Donc, quand le gouvernement encourage les débordements, vous êtes en première ligne que parce que l'UCI a dit
qu'ils étaient contre ce qui s'était passé. Pour pouvoir dire ce qu'il faut faire ? Qui suis-je pour pouvoir dire quelle résolution on doit prendre ? Je suis personne. Je suis pas en capacité de juger, de déterminer et d'influencer le cheminement. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est la sécurité de mes coureurs. Si elle est remise en question et qu'un de mes coureurs me dit « je ne souhaite pas continuer l'épreuve », je ne m'opposerai pas à son arrêt de la compétition. Donc, aujourd'hui, on est pris en otage. Moi, je vais faire un vœu pieux, mais je sais qu'il aura du mal à se réaliser, c'est de dire il faut sacraliser le sport par rapport aux événements politiques, quels qu'ils soient. Et je pense que le fait que si dans l'handisport, on réintègre les Russes et les Biélorusses, ben finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que cela. Je pense que tout le monde a le droit de participer à des événements sportifs. C'est un moment de paix, c'est un moment de réunion, c'est un moment de partage de sport. Et il faut essayer de véhiculer.
Je pense pas que tu arriveras à convaincre.
Mais j'y arriverai pas. Donc les gens, on voit bien qu'on est dans une impasse. Et encore une fois, moi, j'ai quand même constaté qu'il y avait deux types de manifestants. Il y a les gens pacifiques qui viennent manifester pour défendre une cause qu'ils pensent noble. Et puis il y a des pros de la casse et il y a des pros de la provocation. Donc c'est forcément plus délicat de négocier avec ces gens-là.
Et c'est un sujet très délicat dont on risque de parler la semaine prochaine au championnat d'Europe en Drôme-Ardèche où tu seras Christophe d'ailleurs. Ouais,
et première attaque, qui est l'autre sponsor de l'équipe, a demandé à ce que Israël se retire du sponsoring de la formation. Mais bon. Après, derrière, il faut retrouver un autre sponsor du même niveau, parce que c'est un État qui le soutient.
On crée un précédent grave, quand même.
Ouais.
Créer des précédents et à tous les niveaux là en fait, mais le problème c'est que semaine après semaine on a l'impression qu'on la ligne jaune est en train de se déplacer encore un peu plus parce qu'il y a des décisions
et on est de plus en plus dans un entonnoir.
Ouais, c'est pour ça que c'est un vrai sujet à traiter, un sujet très délicat et très complexe. Évidemment, on va pas être là pour apporter les réponses et dire ce qu'il faut faire, parce que même les instances ne le savent pas certainement aujourd'hui et sont démunies face à cette situation. On en reparlera la semaine prochaine, forcément, de l'incidence politique dans le sport. Encore une fois, vaste sujet dans les grandes gueules. On revient dans un instant, les amis, pour la fin de l'émission avec Pascal Duprat, avec Marc Madieu, avec Christophe Cessieu, avec Cédric Emmons. Monde cruel, on va un petit peu revenir dans notre réalité un peu plus joyeuse des grandes gueules du sport. On va jouer dans les amis, on va faire gagner aussi les auditeurs pour finir sur une note un peu plus sympathique. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieu, Pascal Duprat, Marc Madieu, Cédric Emmons. Dernière ligne droite, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Les jeux du sport. Je vous rappelle le principe. 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes faite ce matin avec notre producteur huissier de justice, Maxime Avolin. Marc Madieu avec Pascal Duprat.
Les anciens.
Dream Team.
Les mecs, d'accord. Bah, nous, alors, du coup, c'est nous, on est les rugbyman,
l'équipe de rêve. Voilà. Je vous imagine tous les deux faire une causerie d'avant match là, avec vos gars.
Ah ouais, par contre,
les murs tremblent. Je regarde, je paye pour ça. Aimant Cessieux, du coup, les rugbyman, effectivement. On a que nos auditeurs, Julien et Franck. Salut Julien, salut Franck.
Bonjour les GG.
Julien, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec l'équipe Madieu Duprat ou Aimant Cessieux.
Madieu Duprat
pour Julien.
Le choix de la défaite.
Franck, tu nous as mis la pression.
Ah ouais, parce que là, du coup, quand t'annonces la Dream Team derrière, il faut assumer. Hein,
ouais. La dernière fois, ça s'était bien passé.
Ah, le champion.
Ouais, la chance de la première fois.
La chance du débutant. C'est là qu'on revoit que le champion. Quand la course commence, il devient méchant. Allez, les GG, question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. L'Angleterre a remporté le mondial de rugby féminin face au Canada hier. Avec combien de points d'écart?
20 points.
20 points à Christophe Cessieux. Il m'a dit juste avant, j'ai pas révisé.
J'avais moi aussi, j'étais même pas une demi-seconde.
Eh ouais, mais oui, mais un boyau derrière, tu perds la course.
Question à une seule réponse. On l'a dit tout à l'heure, Ben Johnson avait pulvérisé le record du monde du 100 mètres.
9,79.
C'est pas la réponse. Donc là, vous êtes tous dehors.
9,78.
Ah bah non, mais attends.
Attendez, Pascal n'a pas parlé, donc vous êtes tous dehors. Bravo.
Non, j'attends la fin de la question.
Voilà. C'est finalement Carl Lewis, le deuxième de la course, qui améliorera la marque du record. Avec quel chrono Carl Lewis?
9,79.
Non, vous êtes éliminé, Pascal.
Non. 9,79.
Bon, c'est pas 9, ça, 83. C'est 9,92. Bon, de toute façon, vous étiez
merci,
loin,
merci Pascal de tout. Jouer avec nous.
0 ouais. point.
Non, mais attends, mais combien il avait dit Christophe?
Non, mais pas, non, Christophe, non. Il avait dit 9,79.
Mais avant que la question soit posée.
Eh oui, c'est faut attendre la fin de la question.
Non, 78. 78, c'était il avait dit. Ben donc avec 79, je suis plus près. Ah, oui. Je suis vraiment désolé. Huissier à Bolin, s'il vous plaît.
Que dit l'huissier?
Non, il n'y a pas d'huissier, il y a 2-0 pour nous. Mais non, tu rigoles. Si j'ai dit 9,79, toi t'as dit 9,78, c'est exact.
Pas de point, me dit l'huissier. J'ai pas dit le plus proche, effectivement, cette fois-ci. Écoutez bien.
Ouais, mais d'abord, dis.
Question auditeur pour Julien et Franck. Vous donnez la réponse et ensuite votre prénom, comme ça on sait qui donne la réponse. Quel Français dans les années 2000, a remporté deux fois le maillot arc-en-ciel.
Allez,
le meilleur conseiller de champion du monde de cyclisme.
Bien abandonné.
Son épouse commente.
Pino. Julien.
Allez. Non, Julien, c'est pas bon. Franck. Qui a été champion du monde deux fois en cyclisme.
C'est bon, stop.
3, 2, 1. Terminé. C'était Julien Alaphilippe. 2020-2021, il vient d'abandonner. Toujours 1-0. On est sur un petit jeu aujourd'hui. Question à une seule réponse. Pogacar a été humilié la semaine dernière. Le plus proche l'emporte. La semaine dernière, lors du chrono face à Evenepoel, à combien de temps termine-t-il du champion du monde?
De 45.
De 45, de 30.
Une 37.
Une 37.
Moi, j'ai dit 2.35, moi.
2.35, Pascal Dubras. Bien sûr, c'est 2.37.
Yes. Marc, on est là. Yes.
Là, j'avoue, les Madieu Dubras, là, vous êtes pas mal. Question à plusieurs réponses possibles. La Ryder Cup se déroule ce week-end. Qui est le numéro 1 mondial actuel en golf?
Schaeffer.
Bien sûr. Comment tu dis?
Schaeffer.
Ouais, arrête de Schaeffer.
Non, moi je m'oppose. Là, c'était préparé à l'avance.
Les rugbyman, quand même, vous avez
un anglais magnifique.
Une articulation à chaque fois qui est étonnante. Ben, ouais, 2-1, question élimination. Tiens, allez, on y va. Chacun à tour de rôle. Je vous rappelle une erreur et vous êtes éliminé.
C'est dur,
c'est quoi? Une erreur,
c'est dur.
Donc, donnez-moi, s'il vous plaît, un vainqueur du maillot arc-en-ciel dans la course en ligne chez les garçons au 21e siècle. La liste des champions du monde garçons marche, sur la course en ligne au
21e siècle.
Depuis 2000 du coup. Définition de 2000. On commence par Marc. Evenepoel. Ça marche 2022. Christophe.
Van der Poel,
ça marche. Pascal.
Alaphilippe,
bien sûr, 2020-2021. Cédric Emmons. T'as pas le droit d'aller sur ton téléphone, tu fais quoi là?
Attends,
ça va bien toi. Champion du monde de cyclisme.
Je passe.
Tu passes?
Ah ouais.
Bah il a perdu.
Sorti. Ok, Marc.
Pedersen.
Pedersen 2019. Christophe.
J'ai un trou là.
Champion du monde,
Bah c'est fini.
Non, c'est bon, j'ai
4.
Poggi.
Mais oui, Pogacar. Incroyable. Pascal.
Oh putain. 5 au 21e siècle.
4
putain,
3 2 1 terminé. Marc
Valverde.
Alcaraz, Valverde 2018. Alcaraz, mais c'est
Pascal qui a dit Alcaraz.
Non, me dis pas Pascal, ça dit Alcaraz. On a dit Dembélé. Christophe.
Peter Sagan.
Carapace.
Ah, tu veux dire Carapace?
J'adore Pascal. Mais oui,
Alcaraz, Carapace, Pocacaras. Pocantas.
Oh, le niveau des mecs. Ça passe.
Ça peut arriver, un petit lapsus.
Philippe Gilbert
2012, bien sûr.
Christophe. Allez, Marc.
Là, c'est la guerre des titans, là.
Je sais plus, là, j'en ai.
Non, tu cherches sur ton truc, là.
Oh, c'est fini.
En espagnol, Valverde.
Déjà dit. Pas bon, le point.
Deux.
Attends, Marc, non. Autant dans la dernière.
Tom Boonen,
bien sûr. Bien sûr qu'il y avait Ferré, il y avait Cipollini, Evans, Suchov, Cavendish, Rui Costa, Kwiatkowski. Ça fait 3-1 pour l'équipe Maggio. Duprat, question auditeur. Julien et Franck, c'est pour vous.
Oui.
Vous donnez une réponse.
Allez,
et votre prénom derrière. Qui a remporté le championnat du monde de MotoGP ce dimanche matin?
Marc Martin, Julien.
Bien joué, Julien. Ça fait 4-1 pour l'équipe Maggio. Oh.
Bien.
Duprat, 4-2, pardon, pour l'équipe Maggio. Duprat. Tiens, une dernière question. Question, une seule réponse. Combien de clubs différents ont remporté la Ligue 1 au 21e siècle? GG.
Au 21e.
Ouais.
3. 5.
Le plus proche, 3. Non, Marc.
5.
5.
6.
6. Pascal.
4. 6.
6, c'est 6.
Okay. Comme ça, je suis égalité. On a gagné.
Un point partout, c'était 8. La victoire est pour l'équipe Maggio Dubras.
Désolé.
La victoire est pour l'équipe Maggio Dubras.
C'était très tourné vélo quand même.
Hein. Oui, mais c'était très tourné.
Attends, il a rien de
bravo Julien.
C'est une réflexion qui passe inaperçue.
J'essaye de te défendre. Julien, tu gagnes. PlayStation 5 et le jeu FC 26. C'est cool, non?
Franchement, Julien. Super, pas mal. J'ai des enfants qui vont être contents.
Ah, ben voilà, tu peux remercier Marc et Pascal.
Merci Marc, merci Pascal.
C'est ça. Marc, je pense que Marc avait tous les champions du monde de l'histoire.
Non, pas mal. J'aurais pu...
Bravo Julien.
Et Pascal, la création.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec Micromania Zing, spécialiste du jeu vidéo et de la pop culture. Rendez-vous sur micromania.fr.
Vous imaginez si Christophe Cessieux n'avait pas trouvé Tadej Pogacar, ça l'aurait
non,
fait
mais
mal,
je crois qu'il avait été donné en fait. Donc
Merci Christophe, merci Marc, merci Cédric,
merci.
Merci Pascal.
À bientôt.
Merci à bientôt dans les grandes gueules du sport, tout de suite.
À bientôt.
Les paris RMC arrivent avec Coach Courbis, avec Christophe Payet, avec Lionel Charbonnier. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.